France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Il ne faudrait pas que la Bérarde devienne un village fantôme.
Jusqu'alors, on n'a pas eu assez de lieux et de moments pour que tout le monde se réunisse et puisse exprimer ses besoins, éventuellement ses colères et ses projets ou ses rêves pour la suite.
En fait, une crue n'est jamais que hydraulique. Elle est aussi évidemment psychologique, elle est mémorielle, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en emportant la terre, l'eau a fait aussi ressurgir toutes les mémoires et les souvenirs qui sont liés à cette terre.
Il semblait éternel, mais les glaciers des Alpes fondent sous l'effet du réchauffement climatique. Depuis le début du siècle, ils ont déjà perdu, selon une étude publiée dans Science, 40% de leur volume. Un glacier s'est d'ailleurs effondré mercredi en Suisse. Des millions de tonnes de glace et de roches ont détruit le petit village de Blatten dans le canton du Valais et donné naissance à un lac artificiel qui menace d'inonder une partie de la vallée en contrebas. Un homme est porté disparu. Cet événement rare et spectaculaire vient raviver le traumatisme des habitants de la Bérarde en Isère. Les 20 et 21 juin 2024, une crue torrentielle a partiellement détruit ce hameau d'une cinquantaine de maisons, perché à 1720 mètres d'altitude au cœur du massif des Écrins. Sous l'effet de fortes pluies, conjuguées à la fonte brutale des neiges et à la vidange d'un lac qui s'était formé sur le glacier de Bonne-Pierre, eau, sable, bois et cailloux ont déferlé sur le village. De la Bérarde, paradis des randonneurs et des alpinistes qui accueillait l'été 80 000 visiteurs et le plus petit festival international de films de montagne, il reste aujourd'hui des maisons sinistrées au milieu des gravats. Depuis un an, des travaux de déblaiement ont été effectués, mais le hameau est toujours inhabitable et commence tout juste à être desservi par des navettes sur réservation. Doit-il être reconstruit? Pourra-t-il revivre? Quel sera l'avenir de la vallée et celui des refuges en amont? Leurs gardiens ont signé mi-mai une tribune pour alerter les pouvoirs publics. Veut-on la fin du tourisme et de l'alpinisme dans le Haut-Vénéon, demandent-ils. Eux qui ont beaucoup perdu l'an dernier s'inquiètent à l'approche de la nouvelle saison touristique. Ils se sentent abandonnés. La Bérarde, sentinelle alpine entre deux mondes, c'est un reportage signé Mathieu Laurent. Bonjour Mathieu.
Bonjour Aurélie.
Vous nous emmenez donc au hameau de la Bérarde, sur la commune de Saint-Christophe-en-Noison, et vous avez parcouru toute la vallée.
Oui, et en la parcourant, cette vallée, j'ai pris la mesure des strates, des terrasses de réalité et d'approches diverses, eu égard à ce qui s'est produit. Du télécabine de Venosque qui relie le village aux deux Alpes, station phare des sports d'hiver qui propose du VTT de descente dès le printemps, au sentier aérien de la haute vallée à la minéralité intense striée de cascades qui plongent sur le Vénéon. Et au fond, tout au fond, la Bérarde interdite et scellée. Guide haute montagne, hôtelier, restaurateur, paysan restaurateur, grimpeur, cantonnier, élu, guide d'eau vive, écrivain, géographe, aubergiste soucieux d'éducation populaire. Il y a là un foisonnement d'activités, de représentations, d'émotions, d'impatience, de colère, d'incompréhension. La page n'est pas tournée, l'encrier a séché. Et la Bérarde est, selon la terminologie de la direction départementale du territoire, en zone d'aléa fort.
Nous allons aborder de nombreux enjeux ensemble. Donc, notre invité est Philippe Bourdeau. Bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine à l'Université Grenoble-Alpes. Vous êtes également co-coordinateur scientifique du programme Refuge Sentinelle. Et nous commençons par écouter avec vous le reportage de Mathieu Laurent.
C'est avec Bruno Pellissier, vice-président du bureau des guides de la Bérarde, que l'on s'élève au-dessus du hameau, en direction du vallon des Étançons.
D'ici, on voit ce qui s'est passé le 21 juin 2024, où le torrent des Étançons, que l'on voit dans notre axe, là, qui s'est rapidement obstrué au-dessus du pont d'accès, a petit à petit passé par-dessus la digue, qui est représentée là un peu par ce qu'on voit des travaux en cours, et qui a fait bifurquer complètement le torrent vers la gauche. Et à partir de là, le torrent a déboulé sur le hameau lui-même. Et là, pour ainsi dire, coupé en deux entre la partie du hameau originel et puis une partie un peu plus récente avec le centre alpin, l'auberge et la maison de la montagne qui ont été rénovées assez récemment.
Et à gauche, on a le Vénéon.
Et à gauche, voilà, les étançons, le torrent des étançons se jette dans le Vénéon qui vient depuis le vallon de la Pilate.
Et c'est ce Vénéon, renforcé par les étançons et le torrent de Bonne-Pierre, qui est allé endommager la route qui mène à la Bérarde.
Oui, la route qui mène à la Bérarde, et puis en dessous, le Vénéon qui se trouve en aval de Vénos, qui a subi aussi de gros dommages, et c'est là où sont concentrés d'ailleurs les travaux actuellement, puisque c'est un accès important pour la station des Deux Alpes et du village de Vénosque.
Bruno Pélissier, vous étiez là, vous, quand c'est arrivé?
Oui, alors on était trois guides, avec des stagiaires UCPA, dans un bâtiment qui s'appelle le Centre Alpin, et dans lequel on a passé la nuit. On était redescendu de refuge la veille, en constatant déjà que les torrents étaient très importants, que le passage sur les passerelles commençait à être difficile. Pendant le temps qu'on était là, c'était surtout des vagues d'eau. Et en fait, après notre départ, après notre évacuation, c'est là où ça s'est vraiment transformé en boue. Et c'est là où les dégâts les plus importants ont été causés. À tel point qu'on ne reconnaissait pas sur les photos qu'on a vues après. On n'en croyait pas nos yeux, tellement le décor avait changé, la chapelle avait été endommagée, des maisons avaient disparu alors qu'on les voyait le matin. Donc ça, c'était très impressionnant.
Alors là, je vais peut-être vous surprendre un peu, mais pour moi, au départ, c'était quelque chose de complètement normal. Ce phénomène météo, c'était un gros orage, un gros épisode de pluie, comme on en voit quand même régulièrement. Alors certes, de plus en plus, mais voilà, moi, j'étais personnellement pas du tout inquiète.
Première personne à être évacuée, Marie Gardant, gardienne du refuge Temple Écrin depuis 11 ans.
En fait, j'adore quand il pleut comme ça et qu'on est à l'abri dans le refuge, c'est plutôt un super moment. Quand on s'est couché le soir, donc le jeudi soir, il y avait un orage, c'était vraiment super. Moi, j'étais hyper contente d'être là. Et donc, j'attendais que le temps revienne au beau pour pouvoir redescendre et profiter de mon congé maternité en vallée. Et du coup, c'est vrai que quand l'hélico est venu me chercher à 8h du matin, j'étais encore au fond de mon lit à profiter du bruit de la pluie et je me rendais pas du tout compte de ce qui pouvait se passer ailleurs, quoi. Moi, j'étais absolument pas en danger là où j'étais et vraiment j'étais mis à mille lieues d'imaginer ce qui pouvait se passer ailleurs, quoi. Vraiment mille lieues. Donc je pense que le fait marquant, il s'est pas passé pour moi la nuit, il s'est passé à partir du moment où cet hélico a débarqué, qu'on m'a très très rapidement expliqué ce qui se passait. Et puis surtout au moment où on a survolé la Bérarde, quand on a été évacué. Là, je pense que j'ai vraiment pris conscience de ce qui était en train de se passer. Et encore, non, je dis ça, mais je pense que j'ai mis encore longtemps derrière à vraiment comprendre, quoi. Chaque fois qu'on traverse la Bérarde, il se passe quelque chose. Enfin, ça serre le cœur. À chaque fois, on a eu beau avoir vu des milliers de photos, des milliers de... Y être allé plusieurs fois, ça reste quelque chose de quand même fort. Après, moi, j'arrive très bien à concevoir que le temps ne sera pas le même pour la Bérarde que pour le reste de la vallée. C'est normal, il s'est passé un truc complètement incroyable et il va falloir du temps pour qu'il se passe à nouveau quelque chose. Parce que je pense qu'un jour, il se repassera quelque chose à la Bérarde.
C'est ce que vous souhaitez?
C'est ce que je souhaite. Après, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Ça sera de toute évidence jamais ce qu'on a connu là. Jusqu'à présent, ça sera autre chose, mais c'est normal. Pour la Bérarde, c'est très très frais, en fait.
Laurent Soulier, porte-parole du collectif des Amis de la Bérarde et du Haut-Vénéon.
À chaque fois que vous remontez dans le hameau, quelle que soit la saison, que ce soit en ski au cours de l'hiver, vous rentrez dans ce village la boule au ventre, clairement. Je n'étais pas présent sur place ce jour-là. Simplement, le lendemain, j'ai absolument voulu m'y rendre. Et j'ai pu tout bêtement louer un hélicoptère et me faire déposer sur la zone. L'idée, c'était de voir ce qui s'était passé. Il n'y avait plus d'accès possible, hein, que ce soit par la montagne, par la route. Donc la seule solution, c'était par les airs. Et il fallait absolument que je sauve quelques effets dans la maison. Enfin, vous savez, vous êtes ancré dans un village, dans un hameau, dans une vallée depuis des générations. Et sans être forcément matérialiste, vous vous attachez à quelques petites choses. Et moi, je voulais absolument récupérer, s'il était encore possible de le faire, ces petits effets personnels qui m'ont été transmis par mes grands-parents notamment. La vision, quand vous arrivez depuis les airs, est sidérante. Vous perdez vos repères. Le torrent ne passe plus là où il devait passer. La chapelle est éventrée. Les commerces sont éventrés. Le torrent passe au milieu des maisons. C'est véritablement un cataclysme.
Puisque vous faites mention justement de cette maison-là, quelle est l'histoire de la famille avec la Bérarde ?
L'ancrage local, moi, remonte à plusieurs générations. J'ai été élevé tout petit au hameau. Ma maman est originaire du hameau, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-grands-parents également, de Saint-Christophe, mais précisément de la Bérarde. Donc c'est un ancrage, c'est un enracinement. Vous êtes attaché à ce petit coin de montagne. On est dans de la transmission orale par vos parents, vos grands-parents. Il y a des choses, je dirais, presque inexplicables. Pourquoi vous êtes bien ici ? Mais vous vous sentez bien dès lors que vous abordez cette vallée.
C'est à Almont, dans la plaine, que Stéphanie Rebellino et son mari, Jean-Philippe, gérant de l'auberge de la Meije, patientent, ou plutôt s'impatientent.
Alors déjà, on vit toujours en montagne, un peu plus basse, parce que c'est dans l'espace valéen de Loisan. Donc nous sommes entourés de montagnes, Beldonne, Grande Rousse, Taillefer, les écrins un petit peu en ligne de crête. Mais la Bérarde nous manque, parce que la haute montagne, finalement, ce n'est pas un lieu effrayant. Pour moi, c'est un lieu de ressourcement. C'est vraiment un lieu où je me sens en sécurité. Malgré toutes les contraintes physiques, météorologiques, etc., c'est un lieu où je me sens en sécurité. C'est comme s'il y avait un côté, un aspect un peu matriciel. Il y a quelque chose de matriciel du terrain où on se sent protégé par les montagnes. Et en tout cas, où moi, je me sens protégé par les montagnes. Ce qui fait que même le jour de la catastrophe, je ne me suis pas sentie en danger. On était bien conscients, j'étais bien consciente que c'était inhabituel. Mais voilà, c'est de se dire, c'est là. Je suis là, je suis au bon endroit. Et ça me manque. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais pendant longtemps, cet hiver encore, après plus de 6 mois après la catastrophe, j'ai pris conscience que ce qui me manquait dans la Bérarde et à l'auberge en particulier, et cette relation qu'on avait établie avec notre projet propre professionnel, c'est un projet de professionnel, mais un projet de vie, et en lien aussi avec ce qu'est la Bérarde en particulier, je crois que ce qui me manquait, c'était comme une mère, comme une maman, qui ne pouvait pas protéger et porter aide à son enfant, comme s'il me manquait quelque chose de viscéral. Et ça m'habite toujours. Il y a une magie à la Bérarde. On est happé par la Bérarde. Je trouve qu'il y a un côté cathartique, cathédral. Je ne sais pas, c'est tellement lié à la fois à l'austérité du lieu, à la minéralité. C'est un emblème. Et bien aujourd'hui, tout le monde s'y met. L'État, le département, bien sûr, la commune défend son territoire et veut promouvoir l'avenir de la Bérarde. Mais tout le monde n'a pas la même vision. Et donc, c'est plus que les Bérardins, c'est les Valéens. On ne veut pas qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait plus d'histoire. On ne veut pas qu'il y ait un point final. Il ne faudrait pas que la Bérarde devienne un village fantôme. Déjà parce que, comme dans l'océan, c'est une sentinelle, c'est un phare. C'est un phare et une sentinelle de haute montagne. Dans la pratique, qu'est effectivement à un moment donné la montagne pour ce qu'elle est, dans la randonnée, l'alpinisme, etc. Et ça, c'est important. À la Bérarde, il y a toujours eu de l'éclairage public, été comme hiver. Il y a de la lumière à la Bérarde en plein mois de janvier ou décembre, etc., alors que la route est fermée. Parce que potentiellement, ce phare-là, eh ben, il a vocation à dire « c'est un lieu de vie ». Et à ce titre-là, il est important que la Bérarde perdure avec ses habitants.
Certains disent que les montagnes n'ont pas d'âme, qu'elles sont de simples tas de roches inertes, de ridicules aspérités à la surface du globe, la corne de la Terre. Certains disent que la montagne est un désert qui n'a d'autre signification que celle que l'homme veut lui donner. Ils disent que la montagne se résume à un miroir qui révèle à l'homme l'idéal qu'il poursuit, le fantasme qu'il projette, le visage qu'il désire contempler. Certains disent même que les montagnes n'existent pas, qu'elles ne sont rien sans le regard de l'homme, qu'elles ne peuvent exister sans la présence de l'esprit qui les révèle, les anime et les consacre.
Le bord du monde est vertical, Simon Parcou. Retour dans le haut, aux abords des étages, le hameau en aval de la Bérarde, sur l'un des deux sentiers qui mènent au refuge du Soreiller sous l'aiguille de la Dibena, à la rencontre d'une équipe de cantonniers d'altitude.
Les deux pierres étaient placées là, du coup elles bouchaient le chemin. Et mes deux collègues ont creusé pour essayer de faire une plateforme et d'amoindrir la pente pour les gens, puis dégager les deux pierres.
Et là c'est confort.
Bah, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi je trouve ça très bien.
Voilà, bah ouais, c'est pas mal.
Alors là, décrivez-nous l'équipe, tiens.
Bah, Julia, monitrice UCPA aux Deux Alpes l'hiver. Wouter, un fameux grimpeur de l'Oisan qui nous vient de Belgique.
Moi j'aime bien le caillou, voilà.
Félix aussi qui fait sa première saison, bah lui c'est plus un globe-trotteur qui a fait la moitié, t'as fait tout le tour de la Terre à peu près. À quelque chose près, bah, sa spécialité c'est de chercher tout ce qui est petites ruines de maisons à droite à gauche.
Félix, vous allez présenter monsieur.
Eh ben, David de Champforan, qui en est à sa je sais pas combienième saison.
Plus de 20 ans, ouais.
Voilà, donc il a l'expérience et il nous enseigne ce qu'il sait.
Ouais, dis-nous et on s'écarte. Tu vas arriver à les arrêter avant qu'ils partent ? Ou tu veux que je vienne avec toi pour qu'on les ralentisse ?
Ils vont s'arrêter tout seuls.
Vas-y, on voit. De toute façon, il n'y a rien en dessous, là.
Donc là, Julia fait rouler une grosse pierre. On est 600 mètres au-dessus de la route, donc il n'y a pas de risque que la pierre arrive sur la route. Voilà, la pierre a fait 5 mètres et elle est stabilisée.
Vous voyez, on est déjà au 20 mai, il y a déjà pas mal de gens qui commencent à monter. Et la vallée, elle ne sait toujours pas comment on va être mangé cet été. La plupart des gens pensent que la route est fermée alors qu'ils peuvent accéder en ce moment. Ils ont plus de facilité à accéder en ce moment qu'ils l'auront pendant l'été. Puis à partir de cet été, si la route est fermée après clos, après toute cette partie-là, ça sera soit à pied, soit avec la navette.
Et donc, ces sentiers inaccessibles, la Bérarde inaccessible ?
Pour des raisons normales, hein. On ne va pas laisser les gens se promener au milieu des décombres et tout ça. Hein. Mais après, ici, comme c'est un gros site où vous avez beaucoup d'alpinistes qui peuvent monter, beaucoup de grimpeurs qui vont faire des voies, et du coup, les gardiens de refuge, je ne sais pas si vous avez lu leur... une tribune il y a une semaine,
oui, je l'ai lu, ouais.
qui soumettait toutes leurs inquiétudes, et toute la vallée, c'est à peu près le... Tout le monde est inquiet de savoir est-ce qu'il y aura un peu plus de monde que l'an prochain ou pas. Quoi. On espère, c'est tout. Quoi.
Félix de Montetti, chercheur en géographie alpine et toponymie.
S'il n'y a plus d'alpinisme, il faudra bien que les gens voient quelque chose. Et s'ils veulent voir des ruines, moi je suis là. C'est des ruines, en fait, qui disent quelque chose du rapport à ici, parce que parfois, l'année dernière, il y a des gens qui disaient que la Bérarde, ça existait que depuis le 19e siècle, que les gens, avant, ils vivaient pas l'année dans la vallée, ils vivaient plus bas. Il y a beaucoup de gens ici que ça énervait, et moi aussi, parce que c'est pas vrai, parce que dès le Moyen-Âge, il y a des gens qui vivaient ici en altitude très haut, qui arrivaient à se débrouiller malgré les difficultés. Et donc là, face à nous, bah, on descend vers l'aval du Vénéon, on voit face à Champforan un tout petit chalet, c'est un des chalets du Souchet, et quand on va plus haut, il y a des barres rocheuses, il y a des vires, il y a des pelouses, et encore au-dessus de ces pelouses, il y a des sortes d'éboulis. Et au bord de ces éboulis, moi je sais où elles sont, mais on ne peut pas vraiment les voir parce qu'elles sont très loin, avec des jumelles on pourrait.
Et des petites taches.
Ouais, et il y a une dizaine de petites cabanes, en tout cas des vestiges de cabanes, dont il reste environ 50 cm de hauteur aujourd'hui, mais qui montrent qu'au Moyen-Âge, il y a des gens qui vivaient au moins une partie de l'année à 2400 mètres d'altitude. Et ça, c'est beau.
Pardon, et ?
Bah moi, je trouve que c'est beau.
Est-ce qu'il faut considérer que la Bérarde a été pour partie ruinée par ces crues ?
Je pense que la ruine d'un bâtiment, en tout cas son délabrement structurel, n'est qu'une toute petite partie de la façon dont les lieux vivent et meurent. Et qu'en réalité, quand bien même la Bérarde aurait été intégralement dévastée et détruite, ce qui n'est pas le cas, c'est pas la destruction d'un bâtiment qui fait qu'un lieu n'existe plus, c'est quand ce lieu n'est plus vécu, approprié, habité. C'est-à-dire c'est quand on n'en parle plus et qu'on n'en fait plus rien. Or là, on voit bien que à la Bérarde, malgré la destruction de certains bâtiments, malgré les contraintes et les horizons administratifs et économiques qui ne sont pas forcément reluisants, il y a un attachement qui est immense. L'attachement des gens qui vivent ici et l'attachement des visiteurs qui ont des souvenirs et qui ont envie que la Bérarde, sous une nouvelle forme sans doute, continue d'exister. En ce sens-là, à la Bérarde, où il y a un certain nombre de bâtiments qui ont été définitivement détruits, d'autres qui sont assez profondément endommagés et certains qui sont quasiment intacts, je pense que quoi qu'il arrive, on ne peut pas parler d'un lieu qui est en ruine, encore moins d'un lieu abandonné, parce qu'il y aura toujours un attachement qui va faire perdurer le lien entre cette vallée et ce hameau en particulier.
À l'époque, c'était encore plus compliqué que maintenant l'hiver. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de neige. Dans les années 60, il tombait à peu près 12 mètres de neige à Saint-Christophe. Chute cumulée. Et maintenant, il en tombe plus. L'hiver dernier, il a dû tomber quoi, un mètre. Mais ça a fondu à mesure.
Yves Turc-Gavet, conseiller municipal de Saint-Christophe-en-Oisans depuis 1977, à la retraite des remontées mécaniques depuis 20 ans.
Ici, l'hiver, il n'y avait plus pas eu de neige l'hiver, pratiquement. Maintenant, c'est le dégel qui sont des problèmes. Qui pose des problèmes, c'est le dégel.
Comment vous vivez ça, vous, qui avez le temps long
On s'habitue, quoi. Mais il n'y a pas si longtemps, moi, je dis, ça fait 20 ans que je suis à la retraite. 20 ans que je passe l'hiver ici. Ben, les premiers hivers, il y avait encore de la neige. Je passais, il y avait un mètre de neige là-dessous. J'avais une fraise, je fraisais le chemin pour descendre. Et la fraise, je l'ai changée en 2015, et depuis, il neige plus.
Il y a eu à la Bérarde des destructions, des ensevelissements,
ah, oui.
Des disparitions.
C'est énorme. Catastrophique. C'est énorme. C'est pour tous les gens de la vallée. J'ai pas pu retourner là. J'ai pas pu retourner voir le village. J'ai mieux gardé le souvenir d'abord. Tout est parti en même temps. La pluie, énorme, abondante. Le lac qui s'est vidé, plein de pierres partout. Et la chapelle, elle est partie, t'es loin. La chapelle de la Bérarde.
Notre-Dame des Glaciers.
Oui. Ben, les anciens, s'ils voyaient ça maintenant, ils seraient fous.
Faut plus penser comme ça, parce que sinon là maintenant ça reprend vie.
Les anciens et les autres poussent volontiers la porte de la Cordée, hôtel, restaurant, librairie, point névralgique de la vallée, animé par Marie-Claude Turc, attentive aux récits, sensible aux écrits. La Cordée s'appelait autrefois la Fleur des Alpes.
Quand j'ai repris ici, c'était pour y rester à l'année. Je ne pouvais pas m'imaginer faire une saison et repartir. C'était pas envisageable pour moi. C'est un endroit où les gens, je vois, passent, même pour un oui, pour un non, pas forcément pour consommer, pour dire bonjour, pour demander des nouvelles, pour demander un conseil, un renseignement, pour apporter une information aussi. Ça circule, quoi.
Oui, c'est un lieu d'échange. J'ai l'impression que c'est un repère.
Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais peut-être pour certains, oui.
Et vous, ça vous heurte quand les glaciers fondent et que votre regard se pose sur une montagne qui a changé de couleur, qui s'est grisée?
Ça s'assombrit, les choses?
Non, non. Moi, je me souviens, on était au mois d'août quand même. Il y a à peu près 3-4 ans, un jour après un orage, le soleil revenait et du coup, la montagne brillait avec l'humidité. Et je me souviens avoir vu la montagne en face, donc l'Oranour, qui n'avait presque plus de neige, mais je trouvais que finalement, ce côté minéral était très beau. Parce que on avait l'habitude des sommets enneigés, des glaciers qui étaient éternels, on disait les neiges éternelles, et on se rend bien compte que maintenant, c'est plus des neiges éternelles, mais que ça peut être aussi quelque chose de très beau.
Vous cherchez quelque chose? Vous cherchez quelque chose?
Je suis vendeur de patates.
Ah mais c'est pas vous d'habitude qui passez.
Moi, je suis pas inquiète, non. Parce que je pense que y a plein de gens qui ont envie de revenir, que les gens reviendront. Déjà l'année dernière, c'était dramatique, mais j'ai vu des personnes qui, par solidarité, venaient, et même quelquefois, des personnes qui marchaient pas beaucoup, qui venaient à pied. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Mais je me dis que cette année, forcément, je vois cette envie quand même, parce que j'ai des appels tous les jours, je vois bien que les gens, ils n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir remonter à la Bérarde. Ça sera différent, il y aura beaucoup moins de monde qu'avant, ça c'est clair, mais on aura une population peut-être qui va encore plus nous ressembler.
Je vais vous accompagner, vous allez devoir vous lever, parce que regardez, vous avez de la visite.
Ah, mais c'est Yves. Ça va, Yves?
Ouais. Bonjour. Vous pouvez nous faire de café, s'il vous plaît?
Café, oui. Il faut qu'ils nous aident, l'administration, la préfecture. Il faut qu'ils nous aident, qu'ils nous tirent par des bâtons dans les roues.
C'est le cas?
Ah ben oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Cette année, ils veulent mettre des navettes et les refuges pourraient beaucoup mieux marcher si les gens viennent avec leur voiture. Parce que les gens qui vont en refuge, ils posent leur voiture, ils montent au refuge, ils descendent, ils s'en vont. Là, s'il y a des navettes, ils font comment? Il faut qu'ils attendent, il faut qu'ils montent. Non, non.
Mais pourquoi selon vous?
Ils comprennent rien, ils comprennent rien à ce qu'ils... Rien du tout. Ils ont été à l'école, ils sont instruits, mais ils sont bornés. Nous, on compte pour rien. C'est les fonctionnaires de l'État. Ces gens-là, c'était pas comme ça. À une époque, ils ont une peur pas possible. Ils veulent zéro risque, parce qu'ils ont peur que les gens ils portent plainte contre eux, quoi.
On peut avoir des interrogations, notamment sur l'avenir qu'on peut donner à notre vallée, puisque aujourd'hui, ce sont les cabinets spécialisés qui font des études et qui, pour le moment, sont en cours d'élaboration. Donc, tant qu'on n'aura pas ces résultats, on ne peut pas se projeter sur un avenir à peu près, pas certain, mais avoir déjà une configuration de ce qu'on pourra faire.
Jean-Louis Artaud, maire de Saint-Christophe-en-Oisans.
Quelquefois, je fais part aussi de ma colère parce qu'il y a des choses qui ne me sont pas bien compréhensibles au niveau des décisions qui sont prises. Parce que,
comme quoi, sans vous mettre dans la difficulté.
Un exemple, la route, tout simplement, et je ne vois pas par quel miracle on pourrait autoriser une circulation l'année prochaine sur un itinéraire routier qui sera à l'identique de 2023.
Et c'est un bouleversement? Et à la fois un bouillonnement de questions, de questionnements sur ne pas refaire comme hier pour offrir autre chose à demain. C'est compliqué.
Il faut se projeter dans l'avenir. C'est un territoire qui a été façonné depuis des siècles par les gens qui ont travaillé durement dans cette vallée. Et je conçois très très mal le fait de pouvoir sacrifier ce travail, de donner d'un revers de main, de dire on raye tout ce travail-là et on abandonne la vallée. Ça, je ne me résigne pas du tout.
C'est ça.
Oh, ça fait un but de commun. Ok, les jeunes.
Étienne Girard, guide d'eau vive sur le Vénéon.
Avant, les crues, on les sentait venir. Petit à petit, il faisait de plus en plus chaud, la neige qu'on a eue l'hiver fondait, et l'eau montait l'après-midi, redescendait la nuit, un peu moins, remontait le lendemain, et en fait, au bout d'une dizaine de jours, les orages arrivaient, et on avait des crues de 100-120 mètres cubes. Mais là, ce qui se fait quand même depuis maintenant 3-4 ans, c'est que les crues sont de plus en plus soudaines. Et c'est vrai que la crue de 500 mètres cubes qu'on a eue le 21 juin, on s'y attendait, parce qu'on avait déjà eu une grosse crue en août 2023. On avait déjà eu des lacs glaciers qui s'étaient vidés, mais en fait qu'il faut monter de 40-50 cm la rivière. Ce qui est assez joli d'ailleurs, parce que d'un coup la rivière devient toute blanche, cristalline. Elle brille à l'intérieur en fait, les cristaux de quartz qui brillent. L'eau devient très froide, mais c'est des choses qui sont complètement gérables pour nous, pour nos activités. Par contre là, effectivement, ce lac glacier qui s'est vidé d'un coup, plus les grosses quantités de neige qu'on avait et les grosses chaleurs et l'orage, a fait que ça a été une crue qui a été très très dévastatrice. Mais ce qui nous inquiète un peu, nous, c'est qu'on a eu après deux crues de plus de 200 mètres cubes seconde qui s'est fait dans l'automne 2024. Et ça, c'est des choses que moi, en 30 ans de Vénéon, je n'avais jamais vues. Après la crue, si la route a été arrachée, après ce qui s'est passé à la Bérarde, la rivière, elle, est restée complètement navigable. D'accord ? Parce qu'en fait, ça a déplacé des cailloux, ça a déplacé des forêts qui sont parties. Mais la rivière coule toujours dans le même sens. Et nous, on navigue sur l'eau. Donc en fait, c'est toujours possible de naviguer. Là, le gros problème actuellement, c'est les pelleteuses qui sont là depuis bientôt 9 mois, qui n'ont pas l'air vraiment d'écouter un peu où veut aller l'eau. Ils veulent essayer de forcer l'eau, essayer de canaliser l'eau de plus en plus droit. Et en fait, une rivière, elle n'aime pas du tout la ligne droite.
Ça veut dire que ils font n'importe quoi.
Non, je ne peux pas dire ça, parce que je pense que eux, leur priorité, et la priorité pour la vallée, c'est d'être arrivé à avoir une route qui monte. Mais effectivement, je pense qu'il faut arriver à réfléchir en commun et peut-être nous écouter. Revenir sur une rivière complètement naturelle qui serait sur une grande gravière comme elle était avant. Et effectivement, surélever cette route, la faire passer à mi-pente et qu'elle soit plus du tout impactable par la rivière.
Jusqu'en 2020, Ophélie Viry et Yvan Théier étaient des saisonniers, kayak et ski, aux Deux Alpes. Ils sont devenus paysans restaurateurs.
Un bon talus naturel, il n'y a que ça de vrai. Regarde-moi ça. Viens, plumette. C'est un signal de la nature. Ça fait un moment qu'on attend ça, ces signaux dans notre petite France, dans notre petit confort, dans notre climat tempéré. Moi, je pense à tous ces villages de l'Himalaya qu'on dû déjà sûrement prendre 10 fois plus que ça et on n'en parle pas. Et au moins, on est en train de se dire, voilà, ça arrive pas qu'aux autres, quoi. Et c'est là, c'est ici, c'est maintenant et je veux vraiment pas fuir ça. Au contraire, je veux rester là, au cœur du changement pour voir. Et après, à nous de s'entraider, d'être solidaires, de ne pas se tirer dans les pattes pour s'adapter à ça. C'est malheureux pour les gens qui ont vu leur maison être complètement enfouie sous les pierres, tout ça. Mais les événements qui arrivent, il y a eu le Covid, il y a eu une crue au mois de novembre, il y a eu une crue au mois de juin. Et en fait, ça nous réconforte. Ça nous encourage à continuer à aller dans cette direction de décroissance, de résilience, de changement de mode de vie, de plus d'autonomie et de continuer à...
Pas compter que sur le tourisme.
Ouais, pas compter que sur le tourisme et surtout être un petit peu autonome au sein de la vallée et avoir des déplacements minimes pour avoir l'essentiel pour vivre, quoi. Il faut qu'on se réorganise dans nos vallées.
Ophélie ?
Moi, je pense que il y a souvent le clash avec
la génération de ma mère ou ces gens-là, ils ont vécu du tourisme et ils pensent plus qu'à ça. Il n'y a que le tourisme qui compte et donc, à tout prix, il faut reconstruire, à tout prix, il faut artificialiser pour accueillir les touristes. Là, on voit des choses complètement absurdes.
Comme quoi ?
On a une piscine éphémère là qui... Donc la piscine est partie dans la crue l'année dernière, au mois de juin, qui venait d'être reconstruite et qui était déjà partie dans la crue du mois de novembre. Donc deux piscines en un an qui partent à la rivière. Et là, au lieu de réfléchir à est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, on a décidé de mettre sur un parking une piscine éphémère avec des parasols en cocotier, une fausse plage, une structure en métal qui n'a pas d'allure. Un endroit où, qui aurait pu accueillir des voitures pour le haut Vénéon, pour que justement les gens aillent se promener en haut de la vallée, alors que la route va être coupée là-haut. Enfin, on réfléchit vraiment tourisme de masse.
La vie, la grande vie, celle qui vaut la peine d'être vécue, ne s'éprouve pas dans les boyaux de la ville, ne s'apprend pas dans les livres, sur les bancs de marbre d'une université, dans le discours d'un professeur cravaté. La vie, la grande vie, s'éprouve à un passage de col, lorsqu'on a grimpé pendant plusieurs jours et que, épuisé par la marche, on voit enfin l'horizon se dégager. Alors notre âme fait un bond vers l'endroit d'où elle vient et l'endroit où elle se dirige, c'est-à-dire cette immensité éthérée, tissée dans la lumière et contenue entre les sommets de la vallée. Une fois arrivé en haut, quelque chose en soi se délie, une vérité se dévoile. On se déleste d'un fardeau et on ressent un souffle qui nous traverse. Mais ce n'est pas du vent, c'est un souffle intérieur, un surplus d'éther, la marque de l'esprit.
Félix de Montetti.
La Bérarde, ça a été de différentes façons un lieu d'expérimentation, un lieu d'enseignement, un lieu de découverte. Alors de découverte de la montagne, de la randonnée, de l'alpinisme, ça c'est évident hein, dans la deuxième partie du XXe siècle. Ça a été une université de l'alpinisme quasiment. En même temps, ça fait partie de l'histoire de la science et de l'histoire des recherches scientifiques sur les territoires de montagne. Je pense notamment aux années 1890 où des observations glaciaires ont commencé à être réalisées dans les Alpes avec un grand degré de précision. Et à la Bérarde, ça s'est traduit par un partenariat entre des savants, qui venaient plutôt des villes, et les guides, qui étaient des gens issus du hameau. Et ce partenariat a conduit à des observations glaciaires. On se souvient par exemple que certains guides, notamment des familles Rodier ou Rodron, ont été sur les glaciers qui sont au bout de la vallée et on peint des marques de peinture sur les glaciers pour pouvoir observer finement le recul ou l'avancée des glaciers dans ces années-là. Et j'aime bien penser qu'avoir un tel partenariat entre des institutions universitaires, des institutions culturelles, des acteurs comme les parcs nationaux, donc ici c'est le parc national des Écrins, j'aime penser que ce genre d'échange pourrait aboutir à quelque chose d'assez fructueux.
Simon Parco, l'écrivain du bord du monde et vertical, à Venosque, son lieu de vie.
En fait, une crue n'est jamais que hydraulique, elle est aussi évidemment psychologique, elle est mémorielle, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, je vais te parler de mon prochain livre, je pense. Tu vas mieux comprendre l'histoire qui me relie à cette vallée. Et moi, ça m'a tout de suite... j'ai l'impression d'avoir vécu, en fait, ces crues, comme j'ai vécu le deuil de mon frère, qui d'ailleurs s'appelait Noé, un nom biblique qui fait écho au déluge, qui est tombé dans le même glacier d'où est partie la crue, il y a 10 ans de cela. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Tu vois, j'ai réalisé ça au moment des crues, que mon frère était tombé quand même, bon, à quelques kilomètres près, hein, mais dans le même glacier duquel sont parties les crues de juin 2024. Et donc ce livre, en fait, ce sera l'histoire, ce sera une double histoire et une triple, tu vas voir. Hein. C'est l'histoire d'une crue qui rappelle un autre déluge, c'est le déluge du deuil d'un frère qui s'appelle Noé qui est tombé, donc dans le même glacier d'où est partie la crue. Et je vais aussi en mêler ça avec l'histoire de ma famille qui a des lointaines origines arméniennes. Ils sont arrivés là dans les années 70 et donc ils ont acheté un chalet. Et d'une certaine manière, ce chalet et puis ce petit village a été pour eux un lieu un peu de une patrie, une terre d'accueil, peut-être symbolique en tous les cas. Et le fait de voir une partie de cette terre partir, en fait, moi je pense que ça fait ressurgir un peu la mémoire traumatique à la fois de l'exil de ma famille et puis de la perte du frère. Effectivement, la Bérarde nous dit beaucoup plus qu'un village qui est parti. Ça nous parle de ces deuils, de cette impossibilité de la perfection aussi, de l'harmonie. Ça résonne particulièrement en temps de crise climatique et de réchauffement climatique qui impacte un peu plus les littoraux et les zones montagnardes. On est dans un monde qui s'effondre et voir une église éventrée par un torrent, comme je l'ai dit dans un texte, c'est la suggestion un peu du chaos, quoi. Donc ça a quelque chose de assez terrifiant. Et à la fois, ce que j'essaye de dire dans le livre que je suis en train d'écrire, à la fois c'est une formidable opportunité pour réinventer en fait notre monde, nos territoires, nos usages de la montagne. Et c'est le principe même du déluge.
La Bérarde, sentinelle alpine entre deux mondes, c'était un reportage de Mathieu Laurent avec Axel Dubois à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Pour prolonger ce reportage, nous sommes avec Philippe Bourdeau, professeur émérite en géographie alpine. Alors la catastrophe de la Bérarde l'an dernier n'est pas un événement inédit. Il y a eu d'autres crues torrentielles, d'autres écroulements rocheux. Il faut se faire à l'idée qu'il y en aura d'autres et qu'on ne reviendra pas en arrière.
Alors, certainement, mes collègues géomorphologues disent volontiers que les montagnes sont vouées à dégringoler par les effets de l'érosion, de multiples processus d'érosion et de la gravité. Mais là, avec le changement climatique qui amplifie, accentue, accélère ces processus sous de différentes formes, hein, vous l'avez souligné, eh bien, en effet, on ne peut que se préparer à d'autres types de manifestations de ce genre. Hein. Ça a commencé par la fusion des glaciers, du permafrost, des écroulements, des paysages qui changeaient. Puis on a vu les sentiers et les passerelles menacés par des éboulements ou des crues, des refuges déstabilisés, plusieurs fermés, deux fermés dans le Haut-Vénéon.
La Pilate et aussi le Carlet.
La Pilate et le Châtellerault.
Le Châtellerault, pardon.
Et le Châtellerault, oui. Le nom est assez proche. Et puis ensuite, un hameau, la Bérarde, des routes d'accès aux hautes vallées qui sont régulièrement coupées, parfois dans le massif des Écrins, les trois principales vallées d'accès coupées le même jour, à répétition. Donc en effet, c'est une forme de catastrophe, de déluge, d'effondrement, les témoins que vous avez rencontrés le disent.
Les habitants de la Bérarde aujourd'hui se demandent si on va reconstruire leur village au même endroit ou un petit peu plus loin. Ils se plaignent de ne pas avoir de réponse. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en donner ?
Je ne suis pas certain. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, des institutions, des compétences qui s'activent. Il y a des questions sécuritaires très, très, très prégnantes. Il y a des questions économiques. des questions de décision aussi. Et bon, faut pas négliger le temps nécessaire à faire avancer sur ces registres-là. Ensuite, je pense que les habitantes, les habitants, les forces vives du territoire, on les a bien entendues là, ces paroles incarnées, fortes, sensibles, et qui attendent d'être écoutées, entendues. Elles ont plutôt, comment dire, elles sont demandeuses de signaux, d'actes. Qui seraient des soutiens, alors que effectivement il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes des menaces qui continuent à planer sur l'avenir. Et donc ça se comprend très très bien. Et la tribune des gardiens et gardiens de refuge que vous avez mentionné en témoigne.
Alors, malgré l'attachement très fort des habitants qu'on a entendu, cette question de l'habitabilité des montagnes est clairement posée, avec d'abord la question du danger. Vous évoquez le risque. Si de nouvelles catastrophes sont probables, est-ce que ça vaut le coup de rester là? Et qui doit l'assumer, ce risque? C'est vraiment des questions complexes.
Alors, ce risque, il est assumé au quotidien par les gens qui vivent là-haut, qui les connaissent, ces risques. Qui savent les gérer jusqu'à un certain point. Mais là, on est face à un débordement, effectivement, on est dans des sociétés de plus en plus sécuritaires, avec des processus juridiques qui engagent tout le temps tout un tas de responsabilités. Donc, on est vraiment là, c'est très emblématique ce qui se passe. Les gens qui sont sur place ont certainement de bonnes raisons de ne pas comprendre pourquoi on n'avance pas plus vite. Mais en même temps, la tâche est immense et on fait face à l'inimaginable. On n'est pas préparé. C'est assez curieux. Alors les gens que nous avons entendus, ils ont toutes et tous une expertise qui est très forte, à la fois locale et puis et scientifique souvent. Mais on est face à cette réaction qui aurait pu prévoir. Et sans ironie, effectivement. Et on voit avec la destruction de Blatten en Suisse qu'on est à nouveau face à des manifestations de ces changements. Et là, voilà, on est désarmé d'une certaine façon, et il va falloir se avancer au-delà de ce que Glenn Albrecht appelle la solastalgie, c'est-à-dire cette souffrance, cette détresse qu'on ressent face aux pertes et aux modifications de nos environnements familiers.
Mathieu Laurent.
Philippe Bourdeau, il ne s'agit pas là d'ajouter une variable compliquée, mais s'agissant du risque et de la conscience du risque, diriez-vous qu'il y a une rupture dans l'apprentissage de l'instabilité, rupture d'une génération à une autre? C'est ce que j'ai pu relever à consulter les âmes meurtries et inquiètes de la vallée du Vénéon.
Alors, moi, je voudrais plutôt ça en termes de continuité, parce que ce haut lieu, c'est un lieu de labeur, c'est un lieu qui est tenu par des générations d'habitantes, d'habitants. Il y a ces liens très forts, il y a une culture.
Un enracinement,
une culture qui est une culture du rapport à la pente, du rapport à la verticalité.
Je voulais dézoomer et dire que les acteurs, les institutions, elles, peut-être ne prennent pas en compte cette continuité et participent d'une rupture de l'apprentissage de l'instabilité, ou pas?
Alors certainement qu'on n'avait pas anticipé sur le fait que après les glaciers et les parois, ce seraient les sentiers, les passerelles, les hameaux, les routes. Et effectivement, donc là, on est un peu sur un front de repli. Et c'est ça qui est assez vertigineux, c'est-à-dire comme si on disait aux gens qui tiennent ces hauts pays depuis des générations que finalement, on va peut-être au nom des précautions à prendre et d'une adaptation face à la destruction de leur environnement, repenser les choses, mais on sent bien le décalage qu'il y aurait entre une vision gestionnaire et puis une vision vivante, une vision inspirée, créative, qu'on a entendue dans votre reportage.
On a aussi toujours été dans une logique de conquête de la montagne. Il fallait aller toujours plus haut, toujours plus loin. Est-ce que là, sous l'effet du changement climatique, on doit sortir progressivement de cette logique?
Alors on a déjà basculé d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on est sur la logique moderne de la conquête, qui s'est fort bien exprimée dans le cadre de l'alpinisme. Elle laisse place à une forme d'humilité. Hein. On fait encore des premières ascensions en montagne, mais on peut aussi évoquer les dernières, c'est-à-dire ces parois, ces sommets, ces itinéraires qu'à un moment donné, des alpinistes, sans le savoir, ont parcouru pour la dernière fois avant qu'ils soient détruits ou infréquentable. Et donc on est sur un front de déconquête d'une certaine manière, mais ça rejoint aussi beaucoup le propos des personnes que vous avez interviewées, Mathieu, autour de l'idée que c'est le déluge, c'est l'effondrement, qu'on a à grouper nos inspirations, nos visions du monde pour réhabiter cette vallée. Et là je fais avec cette notion de réhabiter, on évoque notamment le modèle, la référence de la biorégion, hein, qui est une manière de raisonner à partir de nos liens, de nos attachements à ce type de lieu, en les faisant advenir dans le nouveau contexte d'atterrissage. Là, je vais reprendre Bruno Latour. Nos sociétés sont sommées d'atterrir, de redevenir terrestres. Et ce qui se passe dans le Vénéon est, à mon avis, très, très emblématique de cela.
Mathieu.
Oui, j'aurais voulu avec vous évoquer cette fois, peut-être dans la foulée de ce que vous venez de dire, la déconquête, le collapso-alpinisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une nouvelle pratique, une nouvelle approche, une nouvelle représentation de l'alpinisme?
Alors, si on parle de l'alpinisme, je crois que les alpinistes sont très inventifs. Aujourd'hui, on peut parler d'alpinisme sans sommet, on peut parler d'alpinisme expérimental, Yann Bornier qui est guide et chercheur a travaillé sur la notion d'improvisation en alpinisme. Le Parc national des Écrins a soutenu des projets autour des itinérances en alpinisme. C'est-à-dire que les alpinistes ont trouvé les ressorts pour dépasser en quelque sorte dépasser les règles culturelles qui s'étaient données. Et pour inventer un alpinisme du 21e siècle qui est un petit peu l'art de grimper dans les ruines du capitalisme, hein, pour reprendre en partie le titre d'Anna Tsing. C'est un apprentissage que les alpinistes font avec une forme de révision. On n'est plus sur cette logique de conquête, cette logique de purement dédiée à la performance ou aux égos. Donc cet alpinisme-là, il est particulièrement expérimenté dans le massif des Écrins, hein, qui est un petit peu moins en vue que celui du Mont Blanc, et donc ce qui laisse plus de liberté, d'une certaine manière, pour inventer d'autres manières de pratiquer l'alpinisme. Et ce que Félix de Montetti évoque dans votre reportage, autour de l'idée de peut-être réimaginer comment on peut refaire des liens entre la science et l'alpinisme, ça fait pleinement partie... des choses qui sont...
D'une projection possible.
Qui sont envisageables, oui. Et d'ailleurs, Marie Gardan, gardienne du refuge de Templecrin, qu'on entend dans votre reportage, elle est docteur...
Elle a fait une thèse sur la fonte des glaciers.
Sur la fonte des glaciers.
Elle me l'a confié, oui.
Voilà, ce pays est tenu par des gens
qui ont des connaissances, on va dire.
Qui ont les ressources. Mmh. Et c'est ça qui est marquant dans ce haut pays.
Mais alors justement, puisqu'aujourd'hui, il faut bien réinventer la relation à la montagne, que manifestement, on n'a pas encore trop de réponses, comment est-ce qu'on peut les construire, ces réponses? Comment travailler avec qui sur ces sujets si vastes et complexes?
Alors, en premier lieu, avec toutes celles et ceux qui sont là, qui font vivre la Bérarde, Saint-Christophe-en-Oisans, le Haut-Vénéon, l'Oisans, parce qu'ils ont des idées sur la question. On entend fort bien dans votre reportage, notamment à la fin, autour de cette idée de remettre le tourisme à sa place, réinterroger peut-être les routines de l'ingénierie touristique, et puis expérimenter, réinventer, ouvrir des laboratoires d'engagement ou de réengagement des pratiquants de la montagne. Ça a été dit, un certain nombre d'entre eux sont venus donner des coups de main sur
pour déblayer le hameau de la Bérarde l'été dernier, autour des amis de Saint-Christophe en Oisans. Il y a des chantiers collaboratifs qui
des solidarités.
Ont été lancés. Mmh. Voilà. Et donc la solidarité, elle doit faire partie évidemment de cette perspective. Elle peut s'exercer à toutes les échelles territoriales. Alors le département est un peu en première ligne. Et les institutions les plus proches, le département, le parc national des Écrins font, je dirais, tout ce qu'ils peuvent, mais sont un peu à bout de souffle en termes de financement. Quand on voit que les budgets dédiés à l'entretien des sentiers et des passerelles, l'entretien des routes ont explosé depuis 5 ans, on se rend compte que on ne pourra pas maintenir forcément la gestion au niveau où elle était jusque-là. Et pour autant, ça ne doit pas être un abandon. Donc, il faut bien imaginer comment on va s'y prendre pour basculer vers d'autres rapports à la montagne, avec certainement d'autres temporalités d'accès, peut-être repenser le rôle des refuges de basse altitude, repenser les trajets. Voilà, c'est un vaste chantier, et ce qui est pas seulement au sens du BTP, mais au sens culturel, au sens politique, démocratique aussi.
Peut-être une dernière question de Mathieu Laurent.
J'aimerais qu'on la consacre justement à une expression que vous utilisez volontiers, celle de nos imaginaires en transition, dans le droit fil de ce que vous venez de développer. Ne faudrait-il pas justement y travailler et enseigner aux uns aux autres à réactualiser nos imaginaires avec ces paysages qui changent incontestablement ?
Alors la montagne, effectivement, dont les neiges éternelles
ne le sont plus,
sont en train de disparaître, nous renvoie directement un miroir de ces changements. Et c'est pas un simple aggiornamento, c'est pas simplement, je dirais, une réédition de série de cartes postales. Il s'agit aussi de manières de penser, de manières de faire, de retravailler nos liens à la montagne. Et il me semble que effectivement il y a là un laboratoire, et ça pourrait être un démonstrateur de transition. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la question des imaginaires, à la question de la culture. Il y a des photographes, il y a des artistes, il y a des auteurs. Il y en a au cœur même du Vénéon. On a entendu Simon Parcot. Il y a aussi Jean-Marc Rochette. Il y a toutes ces figures
qui nous aident,
sont très actives, qui sont très actives et qui participent de ce changement-là.
Donc le monde de la culture à la rescousse.
Oui, mais il est déjà fortement ancré. C'est un très haut lieu de culture, y compris à l'accordée que vous avez.
C'est une escale fertile, une escale riche, effectivement, dans la vallée.
Tout à fait.
À noter que le monde de la montagne estivale est bien plus impacté par le changement climatique que les sports d'hiver, dont on parle pourtant beaucoup plus. Ça pourrait être un sujet aussi à creuser. On n'en a malheureusement plus le temps aujourd'hui. La montagne, en tout cas, qui a l'air si puissante, n'apparaît plus comme immuable. Mais ce qu'on retiendra, c'est qu'elle est toujours belle. Merci Philippe Bourdeau. Le grand reportage de cette semaine, La Bérarde, sentinelle alpine entre deux mondes, était signé Mathieu Laurent. Réalisation Axel Dubois et Antoine Boucher. À la technique, Élise Leu. Documentation Christine Anzano et Véronique Le Faller. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.